nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Castro. C'est quoi pour vous vieillir?
Je dirais avant tout atteindre une sorte de sérénité.
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Dis donc, on t'a entendu dans la voiture, tu nous as bien fait rire, hein. C'est Castro?
Mais qu'est-ce que tu veux que je dise?
C'est pas possible.
Que je me sens comme une vieille merde, qu'à chaque fois que je me regarde dans la glace, j'ai envie de pleurer.
Mais ça va, m'agresse pas.
Mais c'est toi qui m'agresse, t'arrives, tu m'agresses.
Mais qu'est-ce que c'est beau ici?
T'as vu, à 35 minutes de Paris.
Et enfin, un vol d'oiseau.
Arrête avec ton vol d'oiseau. Tu connais Biggie Star?
Ah oui, oui, bien sûr, j'en ai entendu parler, mais l'idole des enfants.
Et tu veux donc? Parce que je t'ai dit qu'elle passe chez Castro.
Voilà.
Elle est sur le point de se faire expulser.
Elle est connue?
Non.
Et c'est la fille de quelqu'un de connu, elle couche avec quelqu'un de connu.
Non, c'est une afghane.
Nous, on travaille, on se lève tôt.
Mais moi aussi, je travaille. Non, mais je comprends pas, vous entendez à ce point?
Mais à la fois, c'est une fête, hein, on va pas chuchoter.
À part ça, t'as vu ce qu'on prend dans le bouquin de Nina?
À cause du postiche?
À cause du postiche, oui.
Nous avons rejoint notre invité qui est déjà attablé au café de la Maison de la Radio, le Bel Air. Il y a quelques années, en 2003, la comédienne Isabelle Adjani disait de lui qu'il a la mauvaise humeur légendaire en partage avec tous les grands bourrus tendres classiques de Spencer Tracy à Lino Ventura et qu'il a l'orgueil de sa modestie. En tout cas, c'est un acteur et scénariste très populaire qu'on aime beaucoup ici au matin du samedi. Il a le sens de la fête, comme il l'a prouvé dans le rôle principal du dernier film d'Olivier Nakache et Éric Toledano, et comme il le prouve encore dans le nouveau film qu'il a coécrit avec Agnès Jaoui, qui sortira au cinéma mercredi prochain et dans lequel il incarne un animateur télé sur le retour. Bonjour Jean-Pierre Bacri.
Bonjour Caroline.
Merci d'être avec nous ce matin.
C'est un plaisir.
C'est plutôt agréable hein, d'être ici autour d'une table à l'heure du petit déjeuner pour tous les matinaux qui nous écoutent.
Ben oui, on est très bien. Moi, j'ai presque l'impression qu'il est 15h tellement. Enfin, je me sens vraiment bien. Quoi.
Pourtant, vous n'êtes pas du matin.
Non.
Bon, on va essayer de faire en sorte
pas ce qui s'est passé,
que ça se passe bien.
C'est un miracle. Oui.
Oui, c'est peut-être un miracle. On est à quelques jours donc, de la sortie en salle de ce film qui s'appelle Place publique, je ne l'ai pas encore dit. Un film dans lequel il est question du temps qui passe, de la célébrité, des convictions politiques, du politiquement correct, de l'angélisme et du cynisme, des jeunes et des vieux, des riches et des pauvres, de l'humiliation, de la jalousie, des réfugiés, des immigrés, des smartphones, des réseaux sociaux, de peut-être tout ce qu'on met ou pas précisément sur la place publique. C'était ça le point de départ, la confusion entre la vie privée et la vie publique aujourd'hui?
C'était en tout cas un des thèmes de départ, parce qu'on avait plusieurs choses qu'on voulait traiter. On voulait traiter du vieillissement, on voulait traiter de cette histoire de politiquement correct et incorrect. Ça nous démange depuis deux films au moins. Enfin, je veux dire, ça fait deux ou trois fois qu'on veut le mettre, puis ça ne se prête jamais. On se dit, ne mettons pas ça parce qu'on a envie de le mettre, si ça ne va pas dans le scénario. Voilà. Mais donc, ça a toujours été. On a repoussé. Et puis, quand on a fait ce film, on s'est dit, c'est peut-être le moment, vu les thèmes qu'on aborde, de parler de ça. Ça nous tient à cœur.
Comment on fait pour mettre du politiquement correct dans un film? Ça veut dire quoi, mettre du politiquement correct?
Enfin, quand je dis mettre, ça veut dire aborder ce thème. C'est-à-dire que le thème n'était pas abordable dans d'autres. Et donc, ça ne se prêtait pas. Et il se trouve que là, parlant justement des convictions, du temps qui passe, de ce que deviennent les convictions, etc., il nous a semblé que c'était le bon moment et voilà, on s'est défoulé.
Tous les deux, avec Agnès Jaoui, vous faites des comédies. Est-ce que la comédie, c'est le genre le plus adapté pour parler de notre époque? Est-ce que par l'humour, on arrive à faire passer plus de choses?
J'espère que oui, mais disons que c'est notre façon de faire. C'est-à-dire on n'arrive pas à concevoir d'écrire sans humour. Et l'humour, c'est une sorte de recul. Hein, donc on ne peut pas écrire sans recul. Et sans... Les comédies dramatiques, c'est comme dans la vie. Quoi. On peut, dans une même journée, vous pouvez alterner angoisse, fou rire.
Il faut retrouver ça dans un film, comme dans la vie.
C'est ça. Je trouve que la comédie dramatique se prête à imiter la vie, oui.
Et le fait que il y ait des ingrédients qui sont toujours les mêmes, qui sont des ingrédients récurrents, un comique de situation, un comique de dialogue, est-ce que c'est ça qui font les bons ingrédients d'une comédie réussie? Est-ce que vous travaillez à fond les dialogues l'un et l'autre?
On adore ça, les dialogues. Les dialogues, c'est notre... Quand on travaille, on met un an et demi ou deux ans pour écrire un film. On passe énormément de temps sur la structure, sur les personnages, sur ce qu'on appelle les 1, 2, 3 pour chaque personnage, c'est-à-dire d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut et où est-ce qu'il arrive. Et puis comme on écrit toujours beaucoup de personnages, parce qu'on a cet esprit de troupe qu'on aime depuis toujours, une espèce de conviction plutôt politique de dire on ne peut pas écrire deux personnages à qui il arrive des malheurs et puis des gens autour d'eux sans consistance qui viennent leur servir la soupe. C'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter, c'est peut-être notre habitude du théâtre, c'est pour ça que Cuisine des dépendances, on a de famille. tous les rôles étaient égaux, parce que je vous dis, c'est une conviction politique. On se dit, si on doit s'amuser, prendre du plaisir, autant que tous prennent du plaisir, qu'il n'y ait pas de frustration, pas de plus petit, pas de plus grand, pas de dominé, pas de dominant.
Au fur et à mesure de vos films, vous en êtes à, je crois, 8 ensemble avec Niazjaoui, 8 ou 9. Au fur et à mesure de votre film, ce qui est assez génial, c'est de suivre justement l'évolution de notre époque, l'évolution de notre société. Est-ce que c'est facile de faire rire avec notre société aujourd'hui? Et en plus, on parle ce samedi, après une semaine particulièrement agitée, un peu folle, sur le plan international comme sur le plan intérieur.
Bien sûr.
Jean-Pierre Bacri, est-ce que c'est facile de faire rire aujourd'hui?
Oh bah c'est facile, c'est même indispensable. Et puis faire, le rire n'a jamais empêché, bien au contraire, de mesurer l'angoisse ou les problèmes qui peuvent arriver, même si c'est effectivement très tendu en ce moment. C'est ce que je vous ai dit, c'est par rapport au recul, je n'imagine pas de pas prendre de distance et de ne pas avoir ce regard amusé sur certains de nos comportements.
Il y a des thèmes récurrents dans vos films, en particulier la célébrité. Travaillez beaucoup sur la célébrité. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la célébrité?
Bon, on travaille. En fait, c'est pas tant la célébrité que les rapports de pouvoir qui nous fascinent. Comment le dominant prend plaisir à user et abuser de son pouvoir. Et comment le dominer souvent se retrouve dans un état de servitude volontaire. Et donc on critique tout aussi bien l'abus que la servitude volontaire.
Et ça, ça se décline dans un certain nombre de sujets.
Dans la plupart de nos films.
J'aimerais vous parler, Jean-Pierre Bacri, des sources d'inspiration de vos films, en particulier peut-être des sources cinématographiques. Juste parce que je vais vous dire, ce film m'a beaucoup fait penser à la règle du jeu de Jean Renoir. Alors peut-être simplement parce qu'il s'agit d'une partie de campagne dans une belle maison, qu'on est face à une fête qui peut mal tourner à tout moment, qu'il y a des histoires d'amour croisées, de jalousie, puis de confrontation de classe sociale. Est-ce que je suis la seule à y avoir
vous
pensé?
Vous n'êtes pas la seule du tout.
Non, d'accord.
Vous n'êtes pas la seule du tout. Et Agnès... Agnès Jaoui avoue, quand on lui demande, quand elle parlait avec son chef opérateur, qui est Yves Angelo, et qui fait un travail extraordinaire dans ce film, je trouve qu'il y a une image parfaite, elle lui a demandé de re-regarder la règle du jeu et Un mariage d'Altman pour s'inspirer, pour prendre une... Donc on avait cette idée.
Bon, bah alors c'est plutôt réussi, parce qu'effectivement on le retrouve.
Merci.
Y a peut-être quelque chose de nouveau par rapport à des films précédents qu'on voit dans votre film Place Publique, c'est la place des téléphones. Alors moi j'ai un téléphone sur la table, vous voyez que je m'en sers parce que effectivement faut que je regarde l'heure qui tourne
le temps,
quand même.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est nouveau, c'est les téléphones, l'usage qu'on en fait, les réseaux sociaux, les selfies, et ça me fait penser aussi à tout simplement à l'annonce qui a été faite du Festival de Cannes et de la sélection pas plus tard qu'avant-hier, jeudi, quand le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, et le secrétaire général Thierry Frémaux ont justifié l'interdiction des selfies sur les marches cette année, en citant Maître Gims, qu'on retrouve aussi, mais autrement, dans votre film avec la présence de Mister V, on va y revenir, mais en citant Maître Gims et cette phrase, ils ont la chance d'être sapés comme jamais, de monter les marches, et là ils se prennent en photo devant toute la croisette, c'est irrespectueux. J'ai eu vraiment l'impression d'être dans Place Publique. Est-ce que là aussi je me suis trompée ou j'avais raison? Quand même une espèce de distance ironique ou d'ironie critique assez amusante.
Oui, je trouve aussi, oui. Non, mais je comprends pas très bien tout ça, personnellement.
Tout ça quoi?
Enfin, le fait qu'ils trouvent que prendre des selfies, ça n'est pas à la hauteur du prestige du Festival de Cannes. Tout ça est une mascarade, c'est pas si grave. Ces montées de marche, tout ça, ce sont des rituels, qui n'ont pas d'importance, qui n'ont rien à voir avec l'art. Donc de monter un truc sur un tapis rouge, bien habillé ou pas... Prenant des selfies ou pas, je vois pas où est le problème. Je veux dire, tout le monde prend des selfies toute la journée. C'est une occasion de plus et je vois pas pourquoi on sacraliserait particulièrement le Festival de Cannes qui voilà.
Et pourtant, dans Place Publique, vous donnez pas l'impression, en tout cas dans le film, d'être particulièrement tendre avec justement cette place des selfies dans la société aujourd'hui.
Non, bien sûr, on n'est pas tendre, mais on n'est pas tendre sur cette.
Avec personne, de toute façon, vous êtes tendre.
Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas tendre sur cette misère. Je veux dire, moi, les selfies, je veux dire, ça s'apparente pour moi comme la misère sexuelle. Il y a une misère narcissique, quelque chose de pathétique pour moi dans le selfie, dans le fait de se prendre devant tous les monuments et de mettre sa tronche en premier avec quelque chose derrière qui vous prouve que vous êtes quelque part. Ou... je crois que c'est ce qu'on dit avec Agnès, c'est une technologie nouvelle. Donc tout ce qui est nouveau, il y a une espèce d'anarchie, de sauvagerie. Tout le monde use et abuse. On est dans une espèce d'hystérie, quoi. Et puis les choses se calment quand les fiacres ont disparu, que les voitures sont arrivées. Bah, au départ, elles se rentraient toutes les unes dans les autres, et puis on a fini par faire des feux rouges, des stops et des règlements. Et c'est pareil pour tout. Donc un jour, pour cette technologie aussi, un jour, on s'apercevra à quel point il est urgent de réglementer, et on réglementera.
Et l'abbé Pierre, il est où ?
C'est qui l'abbé Pierre ?
Jean-Paul.
Je l'ai viré.
Tu l'as viré ?
Enfin, je lui ai fait comprendre. Tu sais pourquoi elle n'est pas là, Pamela ? Parce qu'elle est avec Jean-Paul, figure-toi.
Comment ça, avec Jean-Paul ?
Avec, il couche avec
elle. Ah, arrête, ça me dégoûte.
C'est pas possible.
Ta gueule, le chien !
Sacré Jean-Paul.
Ça te fait rire, hein ? Je trouve ça abject, moi.
Oh, abject, tout de suite, ça va. Elle est majeure, il l'a pas forcée, où est le problème ?
Il l'a vue naître, il l'a connue toute petite, c'est dégueulasse. Mais ça, tu trouves ça normal, toi, hein ?
Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous faire plaisir, qu'il couche avec des filles de votre âge ? Une femme jeune, c'est plus sexy, oui, je trouve ça normal, qu'est-ce que je te dise. La jeunesse, c'est beau, c'est bien, et la vieillesse, c'est déprimant, voilà. C'est
tout. Bah, parle pour toi, hein. Tu dis ça comme si c'était une loi universelle, mais pas du tout. Moi, je sais pas ce que je foutrais avec une fille de 20 ans, je saurais pas quoi lui dire.
Mais qu'est-ce qu'il te demande de lui dire, quoi que ce soit ? La jeunesse, bordel, c'est désirable, ne sois pas hypocrite.
Je suis pas hypocrite, je le pense vraiment.
Mais tu vois, je suis contente que tu le prennes comme ça, parce que c'est exactement l'argument que Orbis m'a donné pour te remplacer. Je savais pas comment te le dire, mais comme t'as l'air de bien comprendre ces choses-là, voilà. L'émission continue, mais avec quelqu'un de plus jeune.
Jean-Pierre Bacri, il y a peut-être un thème qui n'est pas dans la règle du jeu de Jean Renoir, il y en a d'ailleurs beaucoup hein, dans votre film, bien sûr, ça n'est pas un décalque non plus, mais c'est le thème de l'âge. On entend, dans un extrait qu'on vient d'entendre, la jeunesse c'est beau, c'est bien, c'est désirable, c'est vous qui le dites d'ailleurs, c'est votre personnage, Castro, l'animateur télé. Vous pensez comme lui ? Que la jeunesse c'est beau, c'est bien, c'est désirable ?
Ah non, je ne pense pas comme lui, je ne pense pas ce que dit 99% des propos de ce mec,
il est particulièrement antipathique.
Il les rejette, il est ignoble, cynique, de réac, enfin c'est, pour moi il y a difficilement pire.
Et donc, sur la jeunesse et le vieillissement et l'âge,
la jeunesse et le vieillissement, ce qui est commun entre Castro et moi, c'est qu'à un moment, on s'aperçoit qu'on vieillit et que c'est une aventure incroyable, quoi. On est en Haïti dans la jeunesse, on passe son temps à être jeune. Et puis un jour, on est exilé de ce pays. Un jour, et l'exil, c'est toujours dur. Donc, tout d'un coup, on vous explique que vous n'êtes plus dans le coup. Votre miroir vous l'explique. Ah ben on le ressent, je veux dire, tout le monde vieillit. À un certain moment, vous prenez conscience que vous vous modifiez, que le regard sur vous se modifie, que vous perdez ces jeux de séduction qui vous amusaient tellement avec les jeunes femmes. Eh bien, c'est terminé, vous regardez vieillir, vous voyez les plis, les choses qui tombent de votre menton, de tout. Enfin, je veux dire, vous êtes obligé de le constater. Ce que fait Castro, et c'est ce que font la plupart des gens qui vous disent que qu'ils ont une sorte de sérénité qui leur est tombée dessus à la vieillesse, mais on sait très bien que c'est pas ça, c'est un bouleversement terrible, et on est obligé de le remarquer et d'en être affecté pendant un moment.
Vous parlez du vieillissement dans le film, avec Agnès Jaoui, mais aussi du conflit entre les générations. Je ne sais pas si on peut parler de conflit entre les générations, mais en tous les cas, de cette confrontation qu'il y a entre une certaine génération qui avait un certain nombre de convictions, et puis une génération émergente, incarnée donc par cette bande de jeunes, portée par ce fameux Mister V. Alors, il se trouve que vous mettez vraiment les choses en abîme, parce qu'il y a des acteurs très connus, comme vous et puis comme d'autres, qui sont connus, disons, des plus de 25 ans, mais pas des plus jeunes. Voilà. Et puis, des youtubeurs comme Mister V, que seuls les moins de 25 ans connaissent. Est-ce que ça, c'est nouveau ?
Non, c'est pas si nouveau. Moi, quand j'écoutais les Beatles,
c'est les youtubeurs, quand même.
Ouais, les youtubeurs. Mais moi, quand j'écoutais les Beatles, mes parents me disaient qu'ils étaient sales et qu'ils avaient les cheveux trop longs. Mais ce qui est sûr, et ce qu'on précise à chaque fois avec Agnès, c'est qu'on ne fait pas du tout partie, bien au contraire, des gens qui disent qu'avant, c'était mieux. C'est pas la question et c'est pas le propos du tout. Moi, je trouve pas qu'avant, c'était mieux. J'adore le progrès et je suis pour le progrès malgré tout ce qui peut nous apporter de négatif, parce que je sais que ça s'arrangera comme tout. Les gens qui disent que c'était mieux avant, ils terminent pas leur phrase, en fait. Et ce qu'ils veulent dire, c'est « c'était mieux avant parce que j'étais jeune ». Je crois que c'est ça qu'ils veulent dire. C'est-à-dire que, justement, c'est ce que provoque le vieillissement. C'est que, à un moment, on se sent exilé, comme je vous dis, on se sent rejeté. Et ils ne peuvent pas supporter de ne plus être dans tout et dans ce qui bouillonne. Voilà. Donc, c'était mieux avant parce que j'étais plus jeune. Voilà.
Revenons à un moment, Jean-Pierre Bacri, à votre personnage, donc Castro, cet animateur star de la télé qui a vieilli, qui est devenu has-been, qui a perdu ses cheveux, qui d'ailleurs porte un postiche. Castro porte une parole politiquement incorrecte. On peut même dire cynique. Il est cynique aujourd'hui.
Il a les mêmes convictions
qu'il avait dans sa jeunesse, d'ailleurs.
Mais on peut considérer ça comme des synonymes.
Oui, on peut considérer ça comme des synonymes, tout à fait. Vous, Jean-Pierre Bacri, pas vous, Castro, vous dites qu'en général, vous abordez les personnages que vous jouez, les rôles que vous jouez, avec votre personnalité. Comme quoi, c'est pas si vrai, puisque là, vous dites que vous ne partagez vraiment pas grand-chose
avec ma personnalité. Quand je dis avec ma personnalité, ça veut dire avec ce que moi, je sais. Je peux jouer un nazi demain matin, parce que je vais essayer... Ce sera pas facile. Je vais essayer de comprendre ses motivations et je vais devenir intolérant, extrémiste, etc. De la même façon qu'avec la même fougue qui me gagne lorsque je suis humain et tolérant, si toutefois je le suis, ce que j'espère. Mais se servir d'une fougue pour un propos ou pour un autre, c'est facile. Donc je me sers de ma fougue et c'est en ça que je me sers de ma personnalité. De mes émotions.
C'est plus drôle à jouer un personnage antipathique qu'on n'aime pas.
Oui, j'avoue que ça m'amuse pas mal, oui. Oui, parce que justement, j'ai pas l'occasion dans la vie, donc je me dis, ben.
C'est bien, il y a les films pour
profitons
ça.
Profitons-en, oui, d'être intolérant et cynique.
Ça faisait assez longtemps, je crois que c'était après 10 ans d'absence sur les planches, qu'on ne vous avait pas vu au théâtre.
Oui.
Et puis, vous avez effectué votre retour. Alors, indirectement, puisque le Cuisine et Dépendance et Un air de famille ont été repris au théâtre l'année dernière, pièce dont vous êtes l'auteur avec Agnès Jaoui, mais que vous ne jouiez pas l'année dernière. Mais en revanche, on vous a vu dans Les Femmes Savantes,
juste avant, par
Catherine Hegel en 2016. Cette absence et ce retour, comment l'expliquer? Vous avez d'un coup envie de revenir au théâtre? Qu'est-ce que vous aimez dans le théâtre par rapport au cinéma?
J'ai eu envie d'y revenir plus de 10 ans après, parce que je suis assez paresseux, c'est-à-dire j'arrive à travailler quand je suis très très intéressé, quand je suis passionné. Je trouve que j'adore écrire, j'adore jouer. Mais le théâtre, c'est par rapport au cinéma, c'est un vrai travail, c'est-à-dire que les répétitions 100 fois sur le métier, il y a quelque chose d'un travail comme ça quotidien qui me rappelle la vie que j'avais avant d'être acteur et qui fait que je suis au bout d'un moment gagné par une lassitude, quelque chose qui me... Donc c'est pour ça que je vais peu souvent au théâtre. Il me faut au moins 10 ans pour retrouver l'envie. Voilà.
Écrire, ça vous aimez ?
Écrire et jouer, j'adore. Oui.
Alors, écrire, vous avez beaucoup écrit. Hein. Vous êtes scénariste depuis 1993. On va peut-être citer quelques-uns des films que vous avez co-écrits la plupart du temps avec Agnès Jaoui. Le goût des autres, comme une image, Parlez-moi de la pluie, Au bout du compte, Place publique. Bien sûr, on connaît la chanson. Avant cela, un air de famille. Vous aviez commencé avec Smoking, No Smoking d'Alain Resnais, puis Cuisine et Dépendance de Philippe Mille. J'ai dit ça tout ça dans le désordre, mais les auditeurs remettront ça dans l'ordre chronologique. Donc, vous aimez jouer, vous aimez écrire. Agnès Jaoui réalise. Vous, la réalisation, ça ne vous intéresse pas, Jean-Pierre Bacri?
Non, parce que c'est un travail de forçat. Je suis admiratif et pas du tout envieux.
Bon, bah, tant mieux. On va remonter dans le studio. On va vous laisser ici. On vous retrouvera dans 2 petites minutes après les titres de l'actualité, Jean-Pierre Bacri.
D'accord.
On vous laisse là avec votre café. À tout de suite.
À l'arrière des berlines, en devine, des monarques et leurs figurines.
Il est 7h30 sur France Culture. C'est l'heure des titres de l'actualité avec Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour à toutes et à tous. La riposte occidentale aura mis une semaine à se dessiner en Syrie. Américains, Français et Britanniques ont frappé cette nuit au moins 3 cibles militaires syriennes pour officiellement empêcher Damas de faire usage à nouveau de son arsenal chimique clandestin. Une réaction, on le rappelle, à la frappe au gaz toxique qui avait fait plus de 45 morts samedi dernier à Douma, dans la Ghouta orientale. Moscou dénonce ce matin une insulte faite au président Poutine et promet que ces frappes occidentales ne resteront pas sans conséquences. C'est un centre de recherche militaire et des locaux de la garde républicaine syrienne à Damas qui ont été visés, un complexe militaire à Homs également, des sites qui avaient été évacués ces derniers jours selon l'état-major syrien. Ce sera bien entendu la principale information que nous développerons dans notre journal de 8 heures. Dans une demi-heure également, la grève à la SNCF qui s'inscrit dans la durée. Usagers et grévistes prennent leurs dispositions pour un mouvement qui voit s'achever ce soir sa troisième semaine et qui ne donne aucun signe de sortie de crise. Pas question de laisser les zadistes expulsés cette semaine se réinstaller sur la zone à Notre-Dame-des-Landes. Édouard Philippe s'est rendu hier sur place pour féliciter les gendarmes mobilisés. Ils sont nombreux à rester mobilisés. Les zadistes redisent leur détermination à reprendre le contrôle du bocage dès demain. Marseille, laboratoire mélenchoniste de la fronde anti-Macron. Jean-Luc Mélenchon y organise cet après-midi une grande manifestation Stop Macron où il espère bien fédérer la gauche derrière les syndicats. Et puis en Afrique du Sud, on célèbre ce samedi les funérailles de Winnie Mandela au terme de 2 semaines de deuil national pour la mère de la nation sud-africaine. Icône bien sûr de la lutte contre l'apartheid, devenue ces dernières années également une grande figure féministe dans son pays. C'est ce que nous verrons à 8h.
Eh bien, à tout à l'heure Camille Magnard dans la suite, avant votre journal de 8h. À 7h40, la fabrique médiatique avec deux correspondants de la presse étrangère, Richard Verli du Temps et Eva Morletto, journaliste italienne. Et dans un instant, le comédien Jean-Pierre Bacri, qu'on rejoindra un peu plus bas dans la maison de la radio, face à la Seine, au bar du Bel Air.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Je pense que je suis née sorcière. Petit à petit, j'ai eu des choses que les autres ne voyaient pas. J'ai cru devenir folle, et puis non, ma foi.
Les sorcières s'invitent cette semaine dans LSD, la série documentaire. Céline Duchesnay.
Qu'on lui prête un nez crochu, un balai, des pouvoirs magiques ou une sexualité débridée, la sorcière est un objet de répulsion et de fascination depuis des siècles, traversant les époques en se renouvelant et sans jamais disparaître.
LSD, la série documentaire, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Et on retrouve notre invité, l'acteur et scénariste Jean-Pierre Bacri, pour son film coécrit avec Agnès Jaoui, Place publique, qui sera au cinéma mercredi prochain. On vous retrouve Jean-Pierre Bacri au café Le Bel Air à Radio France, où nous sommes descendus vous rejoindre. On se quittait il y a quelques minutes avec la chanson d'Alain Bachung, Osez Joséphine, qu'on entend dans Place publique. La musique est quand même assez importante dans Place publique. Il y a le Quintet officiel qui est un groupe qu'Agnès Jaoui a formé avec Fernando Fisbein, il y a le groupe Zebda, il y a donc Bachung, d'autres qu'on laisse pour la fin de cet entretien, si vous le voulez bien, Jean-Pierre Bacri. Ça, c'est de vous ou c'est Agnès Jaoui? C'est vous deux? C'est choix?
Il y a Joséphine qui est un de mes choix, mais la plupart des choses, toutes les musiques, c'est Agnès, parce qu'elle avait déjà une idée du film et de la façon dont elle voulait le faire. Elle m'avait prévenu au départ que ce serait, voilà, qu'il y aurait ce groupe que j'adore d'ailleurs, le Quintet officiel. Et j'adore ce chanteur Roberto, je trouve qu'il a une grâce, un talent fou. Et donc non, c'est Agnès, oui, ça qui est...
Il y a un extrait qu'on a passé tout à l'heure du film Place publique, dans lequel il est question de la jeunesse qui est belle, désirable, bonne, mais aussi justement de cette jeunesse qu'on voit en particulier sur les jeunes femmes et sur ces hommes qui choisissent des femmes... plus jeune qu'elle.
Voilà.
Et dans votre tirade à ce moment-là, Jean-Pierre Bacri, dans celle, disons, de Castro, et ben là aussi, on sent comme un malaise de l'autre côté, c'est-à-dire de la part de Léa Drucker vous écoute, et puis de la part d'Agnès Jaoui qui vous écoute aussi, puis qui joue le rôle de votre ex-femme. Ce qui m'amène à vous poser une question par rapport à ce vaste mouvement de libération de la parole des femmes, qui tout d'un coup est passé un peu sous le boisseau, puisque d'autres actualités ont pris le dessus. Avec quel œil avez-vous regardé ce MeToo?
Oh, un œil satisfait, un œil soulagé. J'étais vraiment, je suis fou de joie que la parole de ces femmes, des gens dominés en général, mais les femmes, elles en connaissent un bout là-dessus, qu'elles puissent mettre en danger les plus forts. C'est plus qu'une satisfaction pour moi, c'est un plaisir renouvelé tous les jours. J'espère que ça va, j'espère que c'est pas un feu de paille et que ça, qu'on va garder des acquis, comme on dit, et que les hommes oseront moins se servir d'elle comme de toute femme comme d'un objet. Ils seront plus respectueux.
Est-ce que ça vous étonne, Jean-Pierre Bacri, que ce soit parti du cinéma, de cette grande famille qui n'en est pas une, donc du cinéma, en l'occurrence du cinéma américain, peu importe. Et est-ce que ça vous étonne aussi que finalement peu de choses se soient passées dans le monde du cinéma français?
Ouais. ça m'a pas étonné, enfin, ça m'a pas étonné que ce soit, que ça commence par le monde du cinéma, quoique ça aurait pu commencer par n'importe où. Mais il se trouve que c'est un bon exemple et que tout d'un coup les gens sont sensibles parce qu'ils connaissent les personnes qui parlent, etc.
Au César, ils se sont juste levés 3 minutes parce qu'on leur a demandé de le faire avec un petit ruban blanc.
Un petit ruban blanc qui ressemble au rouge, mais en blanc. Oui, que j'ai pas mis d'ailleurs parce que j'ai pas l'esprit moutonnier, mais est-ce que les gens seraient si respectueux en France et plus respectueux que le reste du monde? J'en doute. Je sais pas. C'est vrai que c'est bizarre qu'on n'ait pas eu de témoignages en France. Je crois pas qu'on soit plus
vertueux.
Plus décent, plus vertueux, non. Je crois pas.
Vous disiez tout à l'heure, Jean-Pierre Bacri, que vous croyez que les choses s'arrangent. Je crois que vous disiez ça, notamment à partir de la technologie, oui. Des usages de la technologie. Vous êtes un optimiste envers et contre
un
tout.
Optimiste,
envers et contre tout.
Oui, je suis très optimiste. Comme disait, je sais pas qui. C'est marrant, je le dis dans le film. Comme disait Churchill, et le mec me dit non, c'est Dormesson, c'est drôle. Mais là, je crois que c'est un Israélien qui avait dit ça. Je crois que c'est Rabin. Ouais, peu importe, on s'en fout. Il disait, je suis optimiste parce que le pessimisme, ça sert à rien. Je trouve ça très juste. Et puis, anticiper le malheur, c'est le vivre deux fois. Toutes ces choses-là, j'y crois beaucoup. Je trouve que ça sert à rien d'être pessimiste. Autant croire au maximum que ça se passera bien et de souffrir un seul malheur et non pas deux. Et d'être, voilà. Et puis, on me cite souvent, comme je suis d'origine juive, mais tout à fait agnostique. On me cite souvent cette blague-là, enfin qui n'est pas une blague, qui est pas mal, sur le fait que les pessimistes se sont retrouvés à Hollywood et les optimistes à Auschwitz. Donc ça me calme en général, mais je ne peux m'empêcher quand même d'être optimiste.
Oui, puis vous pensez, peut-être même ça se traduit dans les films ensuite, que l'idée, penser que tout est toujours possible, et y compris des fins heureuses, il faut qu'il y ait... La comédie, ça se termine par une fin heureuse ? Une rencontre amoureuse à laquelle personne ne pouvait penser, par exemple.
Ah bah là, c'est le cas.
Bah oui, c'est pour ça que voilà. Je veux pas te dévoiler non plus la
non,
fin.
Non, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Oh. C'est vrai.
Utopie d'un monde meilleur, quoi.
C'est vrai que ça finit, voilà, exactement. Ça finit sur ce sourire et sur cette brèche lumineuse.
Bon, Jean-Pierre Bacri, puisque vous nous promettez un avenir meilleur et oui. Une brèche heureuse, puisque vous aimez chanter, et vous le prouvez parfois, est-ce que vous nous feriez un immense cadeau en chantonnant ce que vous faites dans le film Place Publique?
Alors, je vais le faire. Je dirais non au monde entier, mais il se trouve que j'aimais beaucoup vous écouter à la grande table et que j'étais absolument fan de votre émission. Et à cause de cette affection que j'ai pour vous, je vais vous dire un petit début. Enfin, j'essaye. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là,
la vie était plus belle
et le soleil est plus brûlant qu'aujourd'hui. Voilà.
Merci Jean-Pierre Bacri.
Merci à vous.
Vous avez choisi pour terminer quand même une autre chanson.
Ah bon ?
Oui, vous avez choisi de nous faire entendre une chanson d'Alain Souchon, Rive gauche à Paris. Pourquoi ce choix ?
Parce que malgré le fait que les Parisiens et Saint-Germain soient des cons et que les élites soient de la merde... Je suis fier et heureux d'être parisien. J'aime Paris. Et j'adore ce parolier, Souchon. Je pense que depuis les grands Brassens, ou Ferré, mais enfin Brassens surtout, j'ai rarement entendu des textes aussi bien écrits, aussi futés, aussi subtils. Et voilà.
Bien écrit, futé, subtil, allez, c'est les trois adjectifs que je reprendrai pour qualifier Place Publique, qui sera
Merci.
En salle mercredi. Un film très réussi sur les petites vexations, les amertumes, les incompréhensions, nos travers, les inattentions, tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant, mais toujours avec le sourire, même si dans votre film, Jean-Pierre Bacri, vous n'aimez pas sourire, mais en fait, en vrai, je dois le dire, si, vous souriez beaucoup. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'avoir passé ce matin avec nous.
Un plaisir, Caroline.
Merci beaucoup.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre, l'aine du vieux Ferré, les cris, la tempête, Boris Vian, ça s'écrit.